Bonjour et bienvenue dans le balado Précipitation. À l'été 2023, le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, le CERDA, est allé à la rencontre d'hommes et de femmes d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Amérique centrale qui sont venus trouver refuge au Québec. Nous les avons rencontrés virtuellement ou en personne et leur donnons la parole dans ce balado. Ensemble, leurs témoignages nous éclairent sur les impacts que le climat et l'environnement peuvent avoir sur leur vie quotidienne ainsi que sur leurs déplacements. Bon voyage au cœur d'un phénomène complexe. Jusqu'à présent, à travers les témoignages des participants et participantes, nous avons pu constater comment les changements climatiques et environnementaux sont intimement liés aux activités humaines. Ce sont les actions, mais aussi les inactions de l'être humain, et plus particulièrement des personnes en situation de pouvoir, qui mettent la table à une déconnexion entre la nature et la société, et qui entraînent des perturbations dans l'environnement et le climat. Si les risques liés à la nature peuvent parfois paraître incontrôlables, ils sont néanmoins indirectement générés ou amplifiés par les actions humaines. Par ailleurs, un aléa de la nature devient une catastrophe selon le contexte social, politique et économique dans lequel il se manifeste, déboulonnant ainsi le mythe de la catastrophe dite naturelle. Ainsi, les changements climatiques et environnementaux sont à comprendre comme des amplificateurs de risques qui sont parfois déjà présents. Par conséquent, il décuple la précarité des personnes. Cette précision est importante. D'abord, elle permet de ramener au cœur des discours la possibilité de rectifier le tir et de prendre action pour intervenir sur les causes profondes des changements climatiques et environnementaux. Ensuite, elle permet de réfléchir aux manières d'améliorer les conditions des personnes qui en sont affectées dans une perspective de justice climatique. Dans cet épisode, nous espérons justement mettre en lumière les conséquences de ces perturbations climatiques et environnementales sur les personnes migrantes. Quels sont leurs impacts sur la vulnérabilité et la santé en contexte de migration forcée?
Concernant le climat, ce que je n'aime pas de chez nous, en RDC, c'est à la saison sèche parce que la culture, on n'a pas où conserver, on n'a pas de grenier pour conserver nos cultures. C'est-à-dire quand c'est la saison sèche, tout devient cher et les villageois en souffrent. Et ceux qui vivent de la culture, notamment, ils en souffrent énormément. Et pour nous autres, entre guillemets, qui travaillons, on le sent parce que tout devient cher.
Ce que Bernadette illustre par son exemple du stockage de nourriture et de l'augmentation des prix des aliments pendant la saison sèche en RDC, ce sont les impacts du climat sur l'accès à la nourriture. Les changements climatiques et environnementaux entravent l'accès à certains besoins primaires des populations affectées, ce qui, par le fait même, compromet leur capacité à jouir de certains droits humains, tels que le droit à l'alimentation. Toujours en RDC, Ernestine abonde dans le même sens, mais en contexte d'inondation.
Bien sûr, parce que les gens de la ville ne cultivent pas. Du coup, ils dépendent des gens qui sont dans le village ou dans les banlieues. Et quand il y a inondation, les gens qui sont de l'autre côté ne peuvent pas arriver en ville pour servir ou pour écouler leurs produits. Et du coup, les gens qui sont dans la ville souffrent aussi parce qu'ils ne peuvent pas manger. Du coup, c'est le peu qu'il y a, ça, le plus il y a flambé de prix et ils ne peuvent pas acheter à leur bourse.
Les récits de Julio et Daniela permettent d'illustrer des exemples similaires, mais dans le contexte de l'Amérique latine. En parlant du Nicaragua, Julio explique.
La sécheresse nous a tous touchés, toute la population, parce qu'il n'y a pas de récolte. Je veux dire, on perd beaucoup, alors les prix des produits augmentent. Tu sais que le Nicaragua, c'est un pays agricole qui sème beaucoup. Comme le lait, les vaches ne peuvent pas manger d'herbe, de pâturage, de gazon. Parce qu'il n'a pas plu, bah, tout devient plus cher, très cher.
Daniela, quant à elle, explique la situation des agriculteurs au Mexique.
Les conséquences, c'est qu'il y a eu soudain une forte demande, mais les produits n'étaient pas là. C'est donc principalement ce qui a été affecté par ces situations de sécheresse. D'après ce que j'ai compris, mais je ne suis pas sûre à 100%, le gouvernement a apporté un soutien à la campagne. plus précisément dans cette partie de la campagne où de nombreux agriculteurs ont été touchés par la sécheresse. Ils ont perdu les récoltes et cela a entraîné une augmentation de la demande des produits et une pénurie des produits.
En plus des enjeux liés à l'alimentation, les facteurs climatiques et environnementaux ont également des effets sur l'accès à l'eau potable, comme l'expliquait Ernestine dans le premier épisode à propos du Malawi.
C'est vraiment environnemental, les maladies conséquentes, comme des bactéries qui viennent de l'eau. C'est de l'eau de la pluie qu'on boit. Et quand l'eau est polluée, il y a des déchets partout. L'eau là qu'on boit, ce n'est pas vraiment de l'eau potable, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on se pointe des maladies. Parce que quand il y a l'inondation, ça ramasse tout sur son passage. L'eau ne devient plus potable. Même l'eau potable que le gouvernement essaye de fournir aux gens, quand il y a l'inondation, ça ne coule plus. Du coup, vous êtes obligés de prendre de l'eau. Mais comme nous, au fond de refuge, là, on n'avait pas de l'eau de robinet.
Outre l'accès à l'eau potable, d'autres enjeux liés à l'eau, notamment en contexte de sécheresse, peuvent aussi avoir des conséquences sur le bien-être des populations, comme l'explique Daniela en parlant du Mexique.
C'est vrai, la sécheresse affecte les produits. Elle affecte aussi l'eau, parce que les barrages se vident avec la sécheresse et nous dépendons souvent d'un barrage pour répondre aux besoins de tout un État ou même du pays.
Au final, les enjeux liés à l'eau peuvent compromettre le droit à l'eau et à l'assainissement des populations touchées. Les changements dans l'environnement, notamment par la pollution, peuvent aussi compromettre le droit des personnes à avoir accès à un logement convenable. Ernestine l'expliquait lors du premier épisode, en parlant de la pollution à l'intérieur des maisonnées, en raison de l'utilisation du charbon de bois à défaut d'avoir accès à de l'électricité en permanence. Et ce qu'Ernestine illustre également, de par cet exemple, c'est l'impact que cela peut avoir sur la santé.
On ne peut pas mettre le feu à l'extérieur, du coup on le met à l'intérieur de la maison et la fumée qui nous englobe, tout ça là, ça ne facilite pas aussi un environnement sain.
Les conséquences des changements climatiques et environnementaux sur la santé représentent un enjeu de taille, pouvant compromettre l'accès au droit de jouir du meilleur état de santé possible, augmentant ainsi le fardeau lié à la santé. C'est une préoccupation partagée par plusieurs des personnes interrogées. Par exemple, Saad explique comment la chaleur au Pakistan, mais aussi l'accès à l'eau, a un effet sur l'émergence de certaines maladies.
En été, les gens ont la dengue. Il y a un problème de piqûres de moustiques. Ils sont déshydratés, ils ont le choléra, ils ont beaucoup de maladies. C'est une véritable pression sur le système de santé en été, parce que les gens ne consomment pas autant d'eau douce. Chaque année, nous découvrons de nouvelles maladies dans notre système de santé et les médecins sont surchargés.
Cela n'est pas sans rappeler l'exemple donné par Ernestine lors du premier épisode en parlant de l'eau infectée dans le camp de réfugiés.
Moi, j'ai poigné une maladie là-bas à cause, ce sont des bactéries qui proviennent de l'eau, les H. pylori, c'est à cause de l'eau sale, parce que là, l'eau de la pluie est sale à cause de nos excréments.
Également lié aux conséquences de la chaleur, Daniela nous explique comment cela affectait sa santé au Mexique.
Vous savez, j'aime beaucoup le froid. Je ne suis pas team calor. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai des migraines quand il fait chaud.
Elena raconte aussi comment la chaleur l'affectait en Colombie.
Quand je travaillais le matin, il faisait beau. Il ne faisait pas trop chaud, mais quand je travaillais pour la fermeture, en général en milieu de journée, c'était le moment où je m'irritais le plus parce que je transpirais tellement, il faisait tellement chaud, on ne savait même pas comment faire. Aussi, pour préparer la nourriture, il fallait faire toutes les choses tôt le matin. Oui, la chaleur m'affectait beaucoup.
Au Pakistan, Saad a aussi remarqué des impacts de la chaleur, mais aussi de la vie urbaine, sur la santé mentale et le bien-être des personnes.
Les comportements changent. On peut dire que les températures sont parfois insupportables, donc cela affecte vraiment l'humeur des gens. Ils deviennent de plus en plus en colère, plus anxieux, juste à cause de la chaleur. Cela affecte vraiment leur esprit.
La vie urbaine et les effets de la pollution de l'air au Mexique avaient aussi un effet sur la santé de Guadalupe.
Oui, cela a beaucoup d'effets. Par exemple, je souffrais de migraines, de maux de tête sévères environ deux fois par an. On nous disait que c'était à cause du stress, du smog, ce genre de choses. Depuis que je suis au Canada, je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai eu un seul mal de tête en un an. Et ce n'était pas une migraine. Je n'ai pas eu de migraine. Je me sens mieux physiquement.
Guadalupe nous a également parlé des impacts de l'environnement et des changements de saison sur les grippes saisonnières.
À chaque changement de saison, on tombe malade. C'est comme si le corps, l'organisme, ne s'adaptait pas au changement. Eh bien oui, il y a eu beaucoup plus de grippes saisonnières et tu es déjà avec une toux ou un rhume ou la grippe. C'est à cause de la chaleur parce qu'il fait chaud ou à cause du froid, la grippe, c'était ça aussi. Il y avait aussi des changements radicaux. Par exemple, lorsqu'il pleut, si vous êtes mouillé et que vous êtes sensible, vous tombez également malade. Cela doit aussi affecter la santé.
En lien avec les difficultés respiratoires, Amadou raconte comment il vivait avec de l'asthme au Sénégal, qu'il associe à son environnement.
Mais depuis que je suis venu aussi au Canada, je n'ai pas eu ce problème-là. Je ne sais pas quel est le problème exactement, mais au Sénégal, j'avais beaucoup de problèmes pour respirer. Le matin, il n'y a pas trop de problèmes. C'est juste la nuit, tu ne peux pas te fesser aussi. Donc, tu es obligé d'être assorti durant toute la nuit pour avoir l'air. C'était difficile, tu devais puiser dans ces mêmes esprits. Mais bon, surtout durant la saison de chaleur, qu'ils avaient des problèmes. Durant le froid, j'avais aucun problème parce que je préfère le froid d'ailleurs. Là-bas, j'avais aucun problème. Donc, mais surtout quand il fait chaud, l'été, près de froid.
Enfin, en plus des impacts directs sur la santé et le bien-être des populations, les changements environnementaux et climatiques entravaient aussi l'accès au système de santé, comme l'explique Roland en parlant du Cameroun et des coupures d'électricité liées à la sécheresse.
Oui, si ça avait un impact aussi, parce que y a les hôpitaux qui n'ont pas de coupe électrogène. Et quand il y a coupure d'électricité dans les hôpitaux là, les gens ne peuvent pas suivre les soins puisque les appareils qu'on branche à l'électricité, ça avait un impact. Pour la majorité des hôpitaux camerounais n'ont pas de groupe électrogène. Donc, quand il y a sécheresse et on ne peut pas fournir les petits soins qu'ils peuvent fournir, donc ça avait un impact sur les soins de santé. Bon, les inondations, ce n'était pas quand même chaque jour. Peut-être le jour qu'il y a inondation, peut-être quelqu'un ne peut pas se rendre pour suivre ses soins de santé. S'il veut se rendre à un hôpital, tu vois un peu. Ça peut être ça, mais l'inondation n'était pas chaque jour. Donc, c'est un impact peut-être négligeable. D'autant que ces inondations peuvent être une ou deux fois. Si l'inondation, peut-être aujourd'hui, il peut dire que bon, ça va. Bon, demain, je vais aller. Et demain, il peut ne pas avoir une inondation. D'autant que les inondations n'étaient pas chaque jour. Donc, c'est un peu comme ça, un peu négligeable.
Les changements climatiques et environnementaux peuvent donc avoir des effets néfastes sur l'accès à des besoins de base, dont l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à un logement convenable et une bonne santé. Toutefois, d'autres besoins peuvent aussi être compromis en raison de l'environnement et du climat, ce qui, à plus long terme, peut influencer l'accès à des besoins plus primaires. Autrement dit, l'entrave à certains besoins peut compromettre la capacité des personnes à jouir de leurs droits fondamentaux. C'est le cas, par exemple, des conséquences des changements climatiques et environnementaux sur l'accès à l'emploi et sur la capacité économique des personnes touchées. Amadou explique comment les inondations au Sénégal limitent certaines activités quotidiennes.
Oui, je ne veux pas que ce soit une catastrophe naturelle, mais les inondations, comme ça empêche d'aller travailler, tu marches dans l'eau, parfois, quand il y a l'eau, quand tu sors, tu as l'eau qui arrive jusqu'au rein, quelque chose comme ça. Dans ton quartier, je ne dis pas même dans la mer, mais dans ton quartier comme ça. Comme je vous le dis parfois, il y a comme une mer dans ton quartier. C'est un peu bizarre. Mais je n'ai pas entendu comme par exemple des maisons qui sont tombées à cause de cela. Mais tu ne peux pas te déplacer. Ce n'est pas que ça complexe ici, mais tu ne peux pas te déplacer.
Ernestine donne un exemple similaire en parlant de la capacité de se déplacer lors d'inondations, notamment pour vaquer à ses occupations professionnelles.
Oui, il y a d'autres, à cause des gens, comme les gens qui sont dans des banlieues et que les inondations, les routes sont brisées. Du coup, quand ils ont leurs marchandises ou leurs produits de l'agriculture, ils ne peuvent pas les amener en ville pour les écouler. Du coup, ils ne peuvent pas joindre les deux bouts parce qu'ils n'arrivent pas à revenir à leurs besoins, parce qu'ils n'arrivent pas à faire couler leurs produits de l'agriculture. Les routes sont abîmées à cause de la pluie, à cause de l'inondation. Il y a même des routes qui sont à cause des érosions qui ont vraiment détruit les routes. Ça fait qu'une seule ville mais se divise en deux, que de l'autre bout n'arrive pas à joindre l'autre bout à cause des inondations, à cause de tout ce qui arrive.
Toujours en lien avec les déplacements et le travail, Elena raconte comment la chaleur limite les déplacements de certains travailleurs en Colombie.
C'est lui qui travaille d'un coup comme messager sur sa moto, sur un vélo. C'est lui qui a les commerces au coin du bloc. C'est lui qui vend dans la rue. C'est lui qui livre des journaux. Là, je dirais que cela affecterait parce qu'il y a un moment où les gens ne supportent pas la chaleur qu'il y a à Barranquilla. C'est vrai. Alors, par exemple, ceux qui avaient l'habitude de sortir et de travailler toute la journée, maintenant, ils ne travaillent plus toute la journée. Ils se disent, « Oh non, il fait trop chaud maintenant, je vais rentrer à la maison. Et quand le soleil se couchera un peu plus, je sortirai. » Donc, d'une manière ou d'une autre, l'économie doit être affectée.
En parlant de son emploi au Nicaragua, Julio explique aussi comment l'environnement affectait ses déplacements.
Quand je me déplaçais ou quand j'allais dans cette région, parfois, il n'y avait pas de passage dans les rivières où les ponts y tombaient ou même la construction s'arrêtait quand un phénomène naturel touchait énormément des choses. Ou alors, il détruisait aussi ce que nous avions déjà construit. Cela a retardé mes projets car je travaillais pour le chef de projet. Cela a donc affecté mes performances et j'ai dû me précipiter pour faire des choses qui n'auraient pas dû être faites.
Sans faire le lien directement avec le travail, Guadalupe souligne néanmoins l'impact des inondations sur les déplacements et les routes.
Oui, parce qu'il y avait des endroits où c'était inondé, tu ne pouvais pas passer. Il y avait beaucoup de bouchons et ce n'était pas facile de se déplacer. Ça a beaucoup affecté la ville de Mexico avec la pluie.
D'un autre côté, Roland nous parle aussi des impacts socio-économiques de l'environnement, mais en lien avec l'électricité et les sécheresses au Cameroun.
Oui, automatiquement, ça doit avoir un impact socio-économique. Bon, si on prend d'abord peut-être en saison sèche, bon, en saison sèche, souvent, il y a un manque d'eau. Il y a moins d'approvisionnement. Donc, l'eau un peu, ils doivent un peu l'arrêter de l'eau. Vous voyez que ça empêche certains commerces, ça affronte vraiment l'économie, puisqu'on ne peut rien faire sans eau. Alors, il y a beaucoup de problèmes d'eau et ça a impacté aussi les manières d'apposition un peu d'électricité, puisque ça avait l'eau. Et l'eau qui a position d'électricité. Puisqu'en période sèche, il y a un peu plus de coupures de lumière. Puisque c'est l'eau qui approvisionne les barrages hydroélectriques là, qui produisent l'énergie électrique. Et bien, vous voyez que s'il y a coupure de lumière, ça va bloquer les activités. Par exemple, quelqu'un qui coiffe ne plus souvent utiliser la tondeuse, il branche. Ça veut dire les gens qui écrasent, qui font le commerce pour écraser. Les gens viennent écraser les condiments. Ils font le commerce, utilisent l'électricité. Bon, ça a un impact aussi dans le contexte économique au Cameroun. Pendant la période pluvieuse aussi. Et puis souvent, s'il y a les grands vents et les pluies, parfois il y a coupure aussi de lumière. Vous voyez, donc quand il y a coupure de lumière, on sent que ça impacte les activités. Les gens qui travaillent avec l'électricité, pesant les coiffeurs, qui branchent les tondeuses pour faire les commerces, les gens qui ont les machines, qui font les commerces pour vivre, quand on vient écraser les condiments, les hachis chez eux, ils ne peuvent pas utiliser la lumière. C'est un impact économique. Oui, c'est un peu comme ça. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Bon, c'est un peu comme ça. Donc, ça impacte dans les manières économiques. S'il y a sécheresse, s'il y a manque d'eau, et s'il y a manque d'eau dans les barrages, ça ne peut pas produire l'électricité. Et ça veut dire que certains gens font leur commerce pour vivre. Par exemple, pour l'exemple d'un coiffeur, il prend, quand il veut te raser, il branche sa tondeuse. Qu'il n'y a pas l'électricité, il ne peut pas brancher, il ne peut pas travailler. Il peut raser la tête. Il y a des gens qui ont les machines pour écraser les condiments. Pour préparer, il faut aller souvent écraser ces gens qui ont les machines. Ça, quand pour brancher ces machines, ils utilisent l'électricité. Et tu vois, pendant la saison, c'est qu'il y a manqué d'eau, il n'y a pas souvent position d'électricité. Et ces gens ne peuvent pas faire commerce. C'est un impact économique au Cameroun. Et de manière saison, puis je vous ai dit, quand il y a souvent les grandes tempêtes, parfois on peut avoir coupé de l'électricité de deux jours au moment qu'on repart. Et si on coupe de l'électricité, ça impacte aussi de manière économique. Donc, dans les deux contextes, dans les deux saisons, il y a toujours un impact. Donc, ça a plus un impact économique, localement.
Malgré ces impacts sur l'accès à l'emploi, les personnes interrogées nous ont aussi partagé être contraintes de s'adapter et de se préparer en conséquence du climat, comme l'expliquent Daniela au Mexique, Saad au Pakistan et Roland au Cameroun.
Je n'ai jamais eu à annuler mon travail à cause de ce détail. Sauf si j'avais une crise de migraine, là c'est une autre chose. Mais j'ai toujours été un peu prévenue ou préparée pour mon trajet en période de forte chaleur.
Parfois, quand je dois me déplacer d'un endroit à un autre en été, c'est une température qui fait suer là-bas. Je dois donc emporter une chemise ou des vêtements supplémentaires parce que chaque fois que nous conduisons la voiture, la température est très chaude et il est très difficile d'allumer la climatisation instantanée. Lorsque nous nous déplaçons d'un endroit à un autre, nous devenons épuisés et nous utilisons beaucoup d'eau pour ne pas nous déshydrater. Il faut parfois sauter certaines réunions. À certaines heures, on ne peut même pas sortir normalement avec les enfants. Il faut attendre le soir pour laisser baisser la température. Tard le soir, les gens font les courses et sortent, mais pas le matin et l'après-midi.
Parfois, quand c'était vraiment dangereux, là, avec le grand vent, il y a des moments comme ça, là, je me mettais là-bas à la boue. Ou la journée que la pluie franchement tombait, qu'il y avait le grand vent. Pour venir installer le matin, là, il faut retarder. Oui, mais ce n'était pas vraiment... C'est le moment qu'on comptait. Oui, peut-être en un mois, si on pouvait, ça peut arriver deux fois. Mais ça n'avait pas vraiment un impact. Après, quand ça calmait, je me réadaptais.
Toujours en lien avec les conséquences socio-économiques, plusieurs personnes nous ont aussi partagé comment l'environnement et le climat influençaient les prix. Par exemple, Daniela raconte l'inflation des prix de l'alimentation au Mexique pendant les périodes de sécheresse.
Disons que la sécheresse affecte la campagne et cela a un impact au niveau gouvernemental à cause des flux de liquidités. Vous alliez avoir des produits à un coût très élevé parce qu'à cause de la sécheresse, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Et les prix qu'il y avait, ils voulaient vous les vendre à un prix beaucoup plus élevé. D'un jour à l'autre, vous allez au supermarché et les citrons, si vous voulez, dans mon pays, disons environ 5 pesos le kilo, mais vous y retournez le lendemain et il est à 50 pesos le kilo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là?
Pour Julio, la période de forte chaleur est également synonyme de la hausse des prix de l'électricité au Nicaragua.
En ce qui concerne la chaleur, oui, cela affecte aussi. Pour te donner un exemple, l'économie de l'énergie électrique, donc avoir l'air conditionné dans les maisons, dans les chambres, bah, l'énergie elle est très chère dans mon pays, très très chère. Cela représente parfois 20% ou 10% de ton salaire. C'est donc une part importante du revenu.
Margarita appuie le commentaire de Julio concernant le Nicaragua.
Eh bien, la seule chose qui changeait, c'est que les entreprises augmentaient le prix des produits, parce que, par exemple, elles n'exportaient pas autant à cause de la sécheresse. La seule chose qu'elles faisaient, c'est qu'elles augmentaient le prix des produits, et parce qu'il n'y avait pas autant d'entrées, alors elles augmentaient le prix de ce qui restait, de ce qu'elles avaient dans leur approvisionnement.
Finalement, Elena rapporte la même dynamique d'augmentation des prix pour les services dans son pays, la Colombie.
Là-bas, il faut payer le gaz, l'électricité, l'eau, l'Internet, la télévision par câble, tout. Il faut tout payer. En termes de services, le moins cher est le gaz. Ensuite, il vient l'eau. Et la chose la plus chère est l'électricité. J'aime mon pays, mais malheureusement, celui qui gagne le salaire minimum en Colombie, 50% passe sur sa facture d'électricité. Donc, le coût de la vie que nous avons là-bas est impressionnant. 3 gouttes de pluie et l'électricité s'éteint. Là-bas, l'électricité est coupée pour n'importe quelle raison.
Ces exemples en Amérique latine sont éloquents. L'inflation est une préoccupation partagée par Bernadette, qui débute en expliquant comment cela se manifeste concrètement dans le quotidien des personnes en RDC et comment cela est lié au contexte politique.
Il y avait un monseigneur qu'on appelait Monsengo et un grand politicien, Tshisekedi, le père de Tshisekedi, le président actuel, son papa. C'était un grand opposant. Et à cette époque, il faisait les guérillas et tenait absolument à devenir président. Et le Mosengo qui était monseigneur, qui était du côté du gouvernement. Et les prix, on avait déjà les noms, prix Mosengo, prix Tshisekedi. Quand il y avait prix Mosengo, les prix diminuaient. Hein, vous comprenez? C'est bizarre, le Congo. Hein? Le prix diminuait. Et quand on annonçait prix Tshisekedi, oh mon Dieu, c'était la dévaluation totale. Et là, ça a affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Bernadette termine en faisant le lien avec l'influence des saisons.
Pendant la pluie, la saison de pluie, on sait que c'est la période des grandes cultures, là. Donc, les prix diminuent. Et tu peux même le voir sur le visage des gens qu'ils sont heureux.
Enfin, Saad explique aussi de manière éloquente le lien entre la chaleur, l'électricité et l'inflation.
Je dirais qu'en été, la consommation d'électricité est importante car la plupart des gens utilisent leur climatisation dans leur voiture, dans leur maison et sur leur lieu de travail. Le coût de l'électricité est très élevé en été. Cela affecte vraiment leur budget car c'est très difficile pour pouvoir égaliser leurs besoins alimentaires quotidiens pour leurs enfants et pour payer les factures d'électricité.
Dans cet épisode, nous avons découvert différentes conséquences des changements climatiques et environnementaux sur les populations. Surtout, nous avons pu constater comment ces conséquences sont interreliées. La sécheresse, par exemple, peut limiter l'accès à certains aliments, ce qui peut compromettre le droit à l'alimentation des personnes affectées et ainsi augmenter leurs facteurs de risque. En même temps, ces sécheresses peuvent aussi avoir des effets sur l'inflation des prix des aliments, alors que la chaleur peut provoquer une hausse des coûts en électricité et rendre les déplacements plus difficiles. Par le fait même, ces impacts économiques peuvent avoir des conséquences sur la capacité des personnes à répondre à certains de leurs besoins primaires, que ce soit en lien avec l'alimentation, l'eau potable, le logement ou même la santé. Les changements climatiques et environnementaux sont donc intimement interreliés aux conditions socio-économiques. Si le dernier épisode avait illustré comment les conditions sociétales mettent la table aux changements dans l'environnement, cet épisode-ci a su mettre en lumière comment ces changements ont à leur tour des impacts sur les conditions socio-économiques. Ces liens sont parfois directs, mais plus souvent qu'autrement, ces difficultés interagissent de manière indirecte, ce qui complexifie le portrait de ce phénomène. Dans le prochain épisode, nous aborderons plus en profondeur la manière dont les personnes touchées sont contraintes d'apprendre à naviguer à travers ces conséquences et à trouver des stratégies d'adaptation leur permettant d'augmenter leurs facteurs de protection. Merci à toutes les personnes qui nous partagent généreusement leur vécu et leurs réflexions dans ce balado. Merci à Virage Sonore pour la musique et le montage de cette série. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Le balado Précipitation fait partie d'un dossier spécial mené par le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cerda.info. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous. À bientôt.